Il y a une grande différence entre l'attitude de Joseph toutes ces années et celle de ses frères. Joseph connaît drame sur drame. Il est vendu, il est jeté en prison, il est oublié en prison, mais son âme est en paix. Et en fait, il dort tranquille. Et ça, c'est l'effet d'une bonne conscience. Ses frères, par contre, qui semblent avoir connu plutôt une vie facile ces dernières années, ont une conscience qui ne les laisse pas en paix. Ils sont coupables et parce qu'ils portent cette culpabilité, chaque difficulté de leur vie les trouble. La famine. Est-ce que c'est Dieu qui nous poursuit? Et puis ensuite, le premier ministre d'Égypte qui retient Siméon, est-ce que c'est Dieu qui nous punit? Même les événements favorables sont terrifiants pour eux. Vous avez remarqué, dans le chapitre précédent, 42, verset 28, l'instant où ils retrouvent l'argent dans leur sac, il est dit, « Mon argent a été rendu », ça c'est l'un des frères qui parle, « et le voici dans mon sac. Alors, leur cœur fut en défaillance, et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Si vous retrouvez une bourse d'or dans votre sac, vous dites ça, vous ? Lui, eux, ils disent, mais qu'est-ce que Dieu nous a fait ? Qu'est-ce qui se passe pour nous ? Vous savez, on peut tout fuir, mais on ne peut pas fuir sa conscience. Notre conscience nous rattrape. Notre conscience dort avec nous. Elle se lève le matin avec nous. Elle est là dans notre travail, elle est là dans nos transports, elle est là tout le temps. J'aime ce que Arletty a dit, c'est pour les femmes, je pense. La meilleure crème de beauté, c'est une bonne conscience. Un proverbe français dit, une bonne conscience, ça c'est pour les hommes, une bonne conscience, c'est un doux oreiller. Par contre, la torture d'une mauvaise conscience, c'est l'enfer des vivants. Ça, c'est Calvin qui dit ça. Une conscience troublée nous pousse à vivre dans la peur, dans la crainte. Et vous avez remarqué comment ils vivent dans la crainte. Chapitre 42, verset 43, verset 35, pardon. Quand ils ouvrent, ils arrivent chez eux, ils ont des vivres, ils ouvrent leur sac et tous trouvent leur argent, chacun dans son sac. Et la Bible dit ici, ils eurent peur. Et puis quand ils sont invités à entrer, à manger dans la maison de Joseph, chapitre 43, verset 18, ils eurent peur. Et au fond, ces chapitres, il y a cette peur qui plane au-dessus de tous ses frères. Une conscience troublée produit la peur. Une conscience apaisée, c'est le fruit d'une vraie repentance. Et ce matin, je vous propose de voir ces trois choses. Trois pas vers le chemin de la rédemption. Pas de substitut pour apaiser sa conscience. Ensuite, on verra pas d'autre issue que la vraie repentance. Et puis enfin, pas de besoin de payer pour nos offenses. Revenons sur pas de substitut pour apaiser notre conscience. Vous avez remarqué ici, le temps passe, mais rien n'y fait. Le temps n'y peut rien. Le temps n'apaisera jamais nos consciences. Joseph avait 17 ans lorsqu'il est vendu comme esclave. 13 ans plus tard, il a l'âge de 30 ans, il devient premier ministre d'Égypte. Et puis là, 7 ans de famine commence, 7 ans de prospérité commence. Et puis, à présent, nous sommes dans la deuxième année de famine. Ça veut dire que 13 plus 7 plus de 22 années se sont écoulées. 22 ans se sont écoulés, mais la paix n'est pas dans leur cœur. Les frères vivent toujours dans la crainte. Et quand ils rencontrent Joseph pour la première fois et qu'ils reçoivent du blé, il dit « C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ils se savent coupables. Ils se savent coupables d'un crime. contre leurs frères. Ils sont tenus par la loi du silence. Et comme Ruben le dit, et voici, son sang nous est redemandé. Comme leur crime n'a pas été condamné, ils vivent dans la crainte. Ils savent qu'ils méritent d'être condamnés. Et tant que le châtiment n'est pas tombé, ils ne sont pas en paix. Et le temps n'y peut rien changer. Il en est ainsi pour nos vies. Il n'y a pas de substitut à la repentance pour retrouver une bonne conscience. Le temps n'effacera pas votre conscience. La prospérité non plus n'y peut rien. Hein, c'est plutôt une famille de riches, si je peux dire, les Jacob et ses fils. Ah, ils n'ont rien à manger en ce moment, mais ils ont vraiment de quoi acheter. Et donc, ils ont de quoi entreprendre un voyage en Égypte, ils ont de quoi d'acheter une première fois, et puis ils ont de quoi ramener à nouveau cet argent, et encore au double de cet argent, et faire des cadeaux à tout le monde. Et peut-être que dans leur pensée, ils se disent, mais quand même, pour nous, tout va bien quand même. Financièrement, ça se passe bien. Si vraiment on avait un problème avec Dieu, il ne nous bénirait pas de la sorte. Mais ce n'est pas ça. Malgré toutes leurs finances, ils vivent dans la crainte. Ils vivent dans la détresse. Ils n'ont pas de paix. Ils sont dans la peur, comme on l'a vu précédemment. Ils n'ont rien à se reprocher concernant l'argent qu'ils ont retrouvé dans leur sac suite à leur premier voyage, et pourtant, ils ont peur. Ils ont peur, il n'y a pas de paix parce que leur conscience les travaille. Ils ont fait quelque chose il y a 22 ans qui n'est pas réglé. Vous pouvez avoir un bon travail, vous pouvez avoir une bonne santé, vous pouvez avoir une bonne famille, mais votre conscience coupable ne guérira pas, même avec tout cela. Et puis, leur propre justice n'y peut rien non plus. Ils ont rapporté la somme retrouvée dans leur sac à la première visite. Ils sont décidés même à rendre la somme. Et ils ont pris le double pour pouvoir acheter à nouveau du blé. Ils veulent vraiment être honnêtes à présent, on dirait. Mais leur honnêteté d'aujourd'hui n'apaise pas leur conscience envers leur malhonnêteté d'hier. Il n'y a pas de substitut à la repentance pour retrouver une bonne conscience. Tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, qui est juste, qui honore Dieu, qui le glorifie, qui soutient et aide votre prochain, ne peut pas régler votre conscience, le problème de conscience. Vous connaissez cette histoire du roi Akab. Akab, c'était un roi d'Israël. Il avait épousé la diabolique Jézabel. Et un jour, Akab s'est levé un matin en disant « Ah, j'aimerais bien acheter le champ de Naboth. » Et alors, il est allé lui demander son champ. Il voulait enlever la vigne et planter un potager. Et Naboth lui dit « Non, 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 ça c'est l'héritage de mes pères. Je ne peux pas te le vendre. » Alors, il est rentré chez lui. Il était un petit peu contrarié. Sa femme, qui voit qu'il est contrarié, lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?»« Naboth, il ne veut pas me vendre sa vigne. » Alors, sa femme lui dit « Mais qu'est-ce que cela ne tienne ? Je m'en occupe. » Et cette femme, Jézabel, va crapuleusement faire mettre à mort Naboth pour que Akab puisse prendre possession de cette vigne. Alors, il descend dans la vigne, maintenant que Naboth est mort. Et à ce moment-là, le prophète Élie se pointe. Il a un message de la part de l'Éternel à faire connaître à Akab. Voici le message. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Parole de l'Éternel. là même où les chiens ont léché le champ de Naboth, les chiens lécheront ton propre sang. Et vous savez quoi? La parole de l'Éternel s'accomplit toujours. 3 ans plus tard, il y a une bataille. Akab meurt, les chiens lèchent son sang à l'endroit même où Naboth avait été mis à mort. Ce qui m'interpelle dans ce passage, c'est que Akab savait comment il allait mourir. Il savait que les chiens allaient lécher son sang. Et vous pouvez imaginer quelle était l'attitude d'Akab pendant les 3 ans, chaque fois qu'il y avait un chien dans le quartier, chaque fois qu'il y avait un chien qui aboyait, il était terrorisé. Lui, le roi d'Israël, lui qui avait tout pouvoir, une armée, il savait qu'un chien allait manger sa chair et lécher son sang. Il était terrorisé. Notre conscience fonctionne comme ça. Notre conscience fonctionne comme ça. Tant qu'elle n'a pas retrouvé la paix, les chiens nous terrorisent. Quand ils nous visitent, ils nous terrorisent. Alors vous interprétez chaque circonstance de votre vie au travers de votre faute passée. Il n'y a pas de substitut pour la repentance. Pour retrouver une bonne conscience, il n'y a pas d'autre issue que la vraie repentance. Ça, c'est notre deuxième point. Tout le scénario que Dieu met en place vise à réveiller la conscience des fils d'Israël pour les amener à une vraie repentance, afin qu'ils retrouvent une conscience nette. Et le réveil de leur conscience se fait, d'abord, ils doivent retourner en Égypte, là où ils ont vendu leurs frères. Retour sur les lieux du crime. Vous imaginez les frères, avec leurs ânes, chaque fois qu'ils ont franchi les portes d'une ville, ils se sont dit, hey, « Eh les gars, regardez s'il n'y a pas un barbu, là, esclave. » qui ressemble à Joseph. Vous savez, il y a des endroits, quand vous avez péché à un endroit, quand vous avez fauté à un endroit, si vous remettez les pieds dans le même endroit, vous vous souvenez de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, quel que soit le nombre d'années qui s'est écoulé entre-temps. Et c'est ce qui se passe ici. Les frères mettent les pieds en Égypte et ils sont mis face à leur péché d'autrefois. Ils sont accusés de mensonges. Ils sont accusés d'être des espions. Et puis ils sont accusés d'être des voleurs. Et même si ces accusations sont fausses aujourd'hui pour eux, ils se souviennent comment ils ont menti à leur père en lui laissant croire que Joseph avait probablement été déchiré par une bête féroce alors que chacun d'eux avait 2 belles pièces d'argent dans leur pantalon. Le prix de la vente de leurs frères. Et là, ils sont accusés d'être des menteurs. Et même s'ils n'ont pas menti sur les choses pour lesquelles ils sont accusés aujourd'hui, ils savent pertinemment qu'ils sont des menteurs et qu'ils ont menti à leur père. Et puis, ils sont emprisonnés, retenus injustement comme esclaves en Égypte. D'abord les 10 et puis seulement Siméon. Exactement comme ils ont fait à leurs frères. Vous savez, cette situation, c'est comme un mégaphone. Le mégaphone de Dieu pour leur dire, voilà ce que vous avez fait, voilà le genre d'homme que vous êtes. Leurs consciences sont là, comme réveillées. Et la vraie repentance, quand notre conscience est réveillée, on est prêt à se repentir. Et la vraie repentance, elle se voit dans un changement d'attitude. D'abord, Joseph, il teste leur honnêteté avec l'argent remis dans leur sac. Et puis eux, ils confessent qu'ils ont retrouvé cet argent dans leur sac. Et puis ils le rapportent. Et donc, les frères qui étaient des menteurs deviennent, semble-t-il, comme honnêtes. Et puis Joseph teste leur jalousie. Vous avez remarqué ça à la fin du chapitre 43. Et il s'est débrouillé pour que Benjamin reçoivent 5 fois plus que les autres. Vous imaginez le truc? Les frères sont tous beaucoup plus âgés que Benjamin. Et lui, c'est le fils de Rachel aussi, le chouchou. Et le chouchou, il reçoit encore 5 fois plus que nous. Vous savez ce que ça fait là, chez eux? Ping! La tunique! Hein, la tunique de toutes les couleurs! Ça réveille en eux cette jalousie. Mais regardez comment ils réagissent. Verset 34, il est dit, ils burent et s'égayèrent avec lui. Joseph a dressé une situation où leur jalousie pouvait encore s'exprimer. Mais leur cœur est guéri. Non, non. Ils reconnaissent la providence de Dieu pour chacun d'eux et ils sont capables de se réjouir du traitement particulier qui est donné à Benjamin. Et puis, Joseph teste leur loyauté. Et ça, tout le chapitre 44, c'est cela, c'est l'histoire de la coupe que Joseph fait mettre dans le sac de Benjamin. Tout ça pour, voilà, leur loyauté envers Benjamin. Un peu comme le fera Salomon lorsqu'il devra juger qui est la véritable mère. Vous connaissez l'histoire en 1 Roi chapitre 3. Deux femmes ont eu un bébé, elles couchent dans la même pièce, elles se sont endormies et puis l'une retrouve son bébé mort le matin, elle va vite l'échanger avec l'autre, elle le prend. La deuxième, quand elle se réveille, elle essaye d'allaiter son enfant et elle voit que son enfant est mort. Et puis, en regardant de plus près, elle dit « Mais c'est pas mon fils !» Elle a échangé mon fils. Alors les deux femmes viennent devant Salomon et Salomon entend les deux femmes, c'est mon fils, c'est mon fils. Salomon dit, ok, apportez-moi une épée, on va partager. Et à ce moment-là, le cœur de la mère, la vraie mère, s'émeut tellement. Elle dit, non, 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 donnez-lui mon enfant, donnez-lui l'enfant. Sa loyauté est découverte. Et Salomon le voit et dit, donnez l'enfant à cette femme, c'est elle la véritable mère. Ici, Joseph teste la même manière. Il révèle ce qu'il y a vraiment au plus profond de leur cœur. Et Judas, il démontre un amour profond pour son frère et puis pour son père. Il propose de donner sa vie pour Benjamin. Et tous démontrent véritablement qu'ils ont changé de cœur, changé, ils sont vraiment repentants envers le crime contre Joseph. Il y a un changement d'attitude envers leur propre péché. Jusque pendant ces 22 années, ils se sont efforcés de le cacher. Mais à partir du moment où ils sont découverts, vous avez remarqué, chapitre 44, verset 13, ils déchirèrent leurs vêtements. Ils déchirèrent leurs vêtements. Avant, ils avaient déchiré le vêtement de Joseph. Mais là, ce sont leurs propres vêtements qu'ils déchirent. Ils sont humiliés. Ils sont affligés à cause de leur péché. Ils sont bouleversés à l'idée que Benjamin puisse devenir esclave en Égypte. Ils ont vendu Joseph comme esclave, mais cette fois-ci, ils ne supportent pas l'idée que Benjamin le soit. Et ils ont commencé à changer. Et puis, ils assument les conséquences de leur faute. Verset 14, Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent à terre. Et Joseph leur dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et eux, ils sont là, on est d'accord, on est coupable. On n'est pas coupable d'avoir volé la coupe, mais on est coupable. On est coupable envers notre frère. On est coupable d'avoir menti et trompé notre père sur le sort de Joseph. Et ils disent maintenant, ok, on comprend, on doit payer pour ça. C'est Dieu qui nous a finalement rattrapés, qui nous a démasqués. Il nous demande de rendre des comptes maintenant au sujet de Joseph. Et ils assument leur faute. Et puis, ils reconnaissent ouvertement leur péché, verset 16, 44, 16. Ils disent, Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Ils ne savent pas qu'ils sont devant leur frère Joseph ici. Ils n'ont pas encore réalisé la chose. Mais ils sont sûrs d'une chose. C'est que leur péché vient d'être mis à nu. Ok, c'est bon. On sait pourquoi il nous arrive tout cela. La vraie repentance reconnaît sa faute. Elle ne cherche pas à justifier sa faute. Vous avez vu ce qu'il dit au verset 16. Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Cherche même plus à le faire. On est coupable, point barre. Mais quand on en arrive ici, il y a une bonne nouvelle pour nous. C'est qu'il n'y a pas besoin de payer pour nos offenses. Et c'est notre troisième point. Il y a un merveilleux chemin qui mène de l'histoire de Joseph jusqu'à nous. Il y a chez Joseph l'expression d'une justice implacable. Vous avez remarqué ça? Pasteur Samuel disait la semaine dernière, un gant de fer dans une main de velours. Et c'est ce qu'on trouve chez Joseph, véritablement. Il y a l'expression d'une justice implacable. Et puis en même temps, l'expression de la grâce. D'un côté, il retient Siméon, emprisonné. De l'autre côté, il restitue le prix du blé que ses frères viennent d'acquérir. D'un côté, ils doivent payer. De l'autre côté, Joseph a probablement réglé lui-même la facture du blé, puisque l'intendant dit « Votre argent m'est parvenu ». Et Dieu est ainsi. Dieu a une justice sans faille. Il est incorruptible. Et à la fois, sa grâce est immense. Sa grâce est immense. Dans le verset 33 du chapitre 44, il dit, c'est Judas qui plaide devant Joseph. Il explique tout leur transformation de cœur. Et puis, verset 33, il dit, « Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père !» Judas, c'est celui qui avait eu la bonne idée, « Vendons Joseph plutôt que de le faire mourir, au moins on gagnera quelque chose. » Il avait impitoyablement vendu Joseph, mais maintenant, il s'offre comme substitut pour son frère Benjamin. Il ne s'était absolument pas inquiété de l'immense chagrin qu'il allait provoquer à son père pour la perte de Joseph. Mais maintenant, il a la pensée, « Mon père, je ne peux pas imaginer voir mon père souffrir à nouveau pour la perte de son fils Benjamin. » Et donc il s'offre. Et il est conscient qu'il faut que quelqu'un paie pour le pécheur. Et un jour, un descendant de ce même Judas, Jésus de Nazareth, le seul juste, s'offrira aussi comme substitut pour nos fautes. Il mourra cloué sur une croix, payant ainsi le prix que méritent nos fautes, nos péchés. Le prophète Ésaïe dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Voyez-vous, c'est cela la bonne nouvelle. Jésus a déjà payé pour nous. Et l'instant où on vient repentant, l'instant même, on peut placer notre confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe dit, au chapitre 1er, verset 18, « Venez et plaidons. » J'aime cette pensée-là. « Venez, quand vous venez, vous êtes seul, vous êtes repentant, vous reconnaissez, c'est votre faute. » Mais l'instant où vous êtes arrivé, l'instant où vous venez, Jésus est là et il dit maintenant, « Plaidons, c'est moi votre avocat. Si vos péchés sont rouges comme le sang, ils deviendront blancs comme la laine. » Et du coup, Joseph est prêt à se faire connaître à ses frères. Je vous lis simplement ces trois premiers versets du chapitre 45. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph ! Mon frère, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. C'est magnifique ce passage-là. La réconciliation des frères, ça c'est pour le teaser de la semaine prochaine. Ils vont se retrouver. Et tout ça, c'est possible l'instant. C'est possible l'instant où, repentant, on place sa confiance en Jésus-Christ. Il n'y a pas de substitut pour notre conscience. Pour qu'on puisse apaiser notre conscience, il n'y a qu'une vraie repentance qui s'afflige du péché, qui condamne le péché, qui le confesse, qui peut conduire à la liberté. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un substitut merveilleux, Jésus-Christ le juste, qui s'est offert pour nous et qui efface toutes nos transgressions. Il nous délivre de notre culpabilité. Il nous rend une conscience nette. David, après avoir été adultère et meurtrier, dans le psaume 32, versets 3 et 4, il dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. » Dieu nous a fait de telle manière que nous avons... que nous avons une conscience. Et du coup, nous nous sentons coupables lorsque nous péchons. Alors le monde vous dit, « Oh, ça, c'est pas bon. La culpabilité, ça va vous tirer des rides. Hein. La culpabilité, c'est vraiment pas bon. » Alors le monde propose de rejeter ce sentiment de culpabilité et il propose... le divertissement, comme ça vous pouvez étourdir votre conscience. Vous savez, vous faites la fête, une fête, vous buvez ou vous fumez ou je ne sais pas ce que vous faites. Mais... Et le matin, vous vous réveillez et votre conscience est encore chargée. Il propose de se racheter soi-même en devenant bon et généreux. Mais nous savons simplement que c'est ce que nous devons être. Et qu'on ne reçoit pas une médaille quand on a fait que ce qu'on devait faire. Mais par contre, c'est quand nous ne le faisons pas, nous ne le sommes pas, que notre conscience nous trouble. Alors le monde propose aussi de laisser le temps au temps pour que l'on oublie. Mais rien, rien, rien n'y fait. Cette culpabilité, il ne faut pas la rejeter. Elle doit nous conduire à la repentance pour nous saisir du pardon que Jésus offre. Alors nous sommes délivrés du péché, de la culpabilité et puis de la condamnation. Il y a vraiment un substitut. Il y a vraiment une rançon qui a été payée pour nous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui charge votre conscience ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait craindre? Vous vivez dans l'angoisse qu'elle soit découverte? Vous interprétez chaque situation comme... qu'elle soit bonne ou mauvaise, à la lumière de votre faute. Vous êtes comme David, cette culpabilité vous consume petit à petit. Elle devient un poids que vous traînez toujours plus lourd. Venez à Christ. Confessez votre faute. Saisissez son pardon. Que Dieu vous bénisse. Prions.